Eh bien, pour ceux qui nous rejoignent pour cette seconde partie de notre colloque, je vous souhaite la bienvenue. J'espère pour les autres que vous avez eu le temps d'avaler un sandwich ou de vous rassasier. Ceux qui étaient là, j'ai prévu de donner la parole à la salle à la fin de la réunion, mais on peut commencer dans l'autre sens si vous préférez. Bon, donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce colloque sur les faux amis et les idiots utiles qui est organisé à l'initiative de Jacqueline Costa-Lascou, à qui je veux rendre hommage pour tout son engagement, l'engagement d'une vie au service du progrès, de la laïcité, des valeurs républicaines, et avec qui ce fut un bonheur que de préparer ce colloque. Qui plus est, ses anciennes responsabilités dans les milieux laïcs font d'elle un témoin tout à fait particulier pour pouvoir traiter de ces sujets. Il ne nous a pas encore rejoints, mais je voudrais aussi remercier le président de la LICRA, Alain Jakubowicz. Ce n'est pas la première fois que le comité Laïcité République et la LICRA organisent un colloque en commun, puisque en novembre 2007 déjà, nous avions organisé ici même un colloque sur identité nationale et citoyenneté républicaine. Et on a bien senti ce matin, et je veux rendre hommage à la qualité de nos intervenants, et je doute pas que ceux de cet après-midi seront bien évidemment également très bons, mais ce qui est rare, c'est que chacun a tenu son temps. Donc les intervenants cet après-midi ont compris mon invitation. Chacun a tenu son temps, mais qui plus est, a traité de son sujet. Ce qui a permis, vous l'avez remarqué, d'avoir une palette d'angles d'approche particulièrement riche. Je voudrais aussi remercier Christian Bataille, député du Nord, grâce à qui nous pouvons nous réunir aujourd'hui dans cette salle Colbert, qui est une salle historique, et vous le savez, c'est là que traditionnellement se réunit le groupe majoritaire, quel qu'il soit, depuis la Ve République. Et donc, sous les auspices du Parlement en action de débats concrets et républicains, ce qui, comme l'a dit Jacqueline Costa-Lascou ce matin, nous fait l'obligation, tous dans nos interventions, d'aller au bout de ce que nous avons à dire, mais de le dire dans un cadre qui est celui du respect des personnes, dont nous faisons de la politique et pas de la polémique, et c'est un peu l'état d'esprit dans lequel, en tout cas, nous inscrivons notre démarche. Nous allons donc ouvrir immédiatement les débats de l'après-midi. Le premier de nos intervenants est Brice Couturier. Vous l'écoutez, je suppose, régulièrement. Si vous ne le faites pas, vous avez tort. Il est éditorialiste. Il est présentateur de la chronique quotidienne Le Tour du Monde des Idées sur France Culture. Il est un collaborateur régulier du Point. Et je dirais, si on me permet cela, c'est à la fois un homme libre et un journaliste libre. Alors, le président de la LICRA arrive maintenant, alors que je viens de le citer, de le remercier de notre collaboration. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Et sans autre forme de procès, Brice, vous avez la parole.
Comme tu l'as rappelé à l'instant, j'officie sur France Culture et j'y officiais notamment pendant 5 ans au matin en tant qu'éditorialiste et co-intervieweur. Dans l'exercice de mes fonctions, il m'est arrivé plusieurs événements amusants et je voudrais vous en rapporter un ou deux. Et à partir des anecdotes, on peut réfléchir. Au lendemain des attentats du 22 mars à Bruxelles, nous recevions au matin de France Culture 2 invités belges pour commenter l'horreur qui venait de survenir dans leur pays. L'un de ces invités, alors il paraît qu'il ne faut plus donner les noms, je ne donne pas de nom. L'un des invités s'est félicité, je cite, que le Premier ministre de son pays n'ait pas utilisé, contrairement au président de la République française et à son Premier ministre, le mot « guerre ». D'ailleurs, il est revenu quelques jours plus tard dans Le Monde, dans un éditorial du Monde, pour dire qu'effectivement, dire qu'il y avait guerre contre le terrorisme, c'était tomber dans un piège. Allant plus loin, il m'expliqua, à l'antenne toujours, hein, qu'il était fier, en tant que Belge, que son Premier ministre n'ait pas utilisé non plus le mot de terroriste. Je lui ai demandé pourquoi il ne fallait pas utiliser le mot de terroriste face à des gens qui faisaient usage, d'être dans un cadre d'attentat terroriste, de la terreur. Il m'a répondu parce que ce serait stigmatisant. Stigmatisant de dire d'un terroriste qu'il est un terroriste. un peu énervé, ce qui m'était reproché ensuite par ma direction, je lui demandais qui serait stigmatisé si on appelait terroriste des gens qui venaient de tirer à la mitraillette dans une foule désarmée. Un autre invité à ce moment-là est intervenu pour me dire « Sic, réécoutez la bande, c'est intéressant ». Pour me dire qu'il fallait se méfier du qualificatif de terroriste parce qu'il pouvait être requalifié dans l'avenir en tant que résistant. On avait affaire au vieux relativisme qui refuse toute qualification d'un acte meurtrier sous prétexte que l'histoire n'a jamais prononcé son dernier mot. Et qu'il faut donc ne pas dégainer trop vite les mots, mais en user avec précaution. Je n'ai pas eu l'occasion de lui expliquer, je l'ai fait ensuite dans la presse écrite, que les mots ont un sens et qu'assassiner des civils au hasard dans une gare, dans un lieu public, dans un lieu de concert ou dans une école ou dans un métro ou dans les rues de Paris, il s'agit d'un acte terroriste. Il s'agit en effet de tétaniser, de sidérer une population en lui faisant comprendre que nul n'est à l'abri d'une violence meurtrière assassine. Il s'agit de terroriser une population afin de lui imposer en général des choses qu'elle ne veut pas, une situation de fait qu'elle refuse. De désarmer, en un mot, son envie de résister. On terrorise pour empêcher la résistance. Un attentat terroriste est par définition aveugle. Ses auteurs et ses commanditaires veulent démontrer que nul n'est à l'abri, que n'importe qui peut être frappé, et c'est ainsi personnellement que j'interprète les manifestations de soutien à Charlie, où nous étions 4,5 millions dans les rues de France pour dire « Vous ne nous tuerez pas tous. Vous ne nous tuerez pas tous, nous sommes bien trop nombreux. Vous n'aurez pas notre liberté d'expression parce que nous sommes trop nombreux pour que vous nous tuiez tous. » Je crois que c'était le sens. Un acte de résistance, au contraire, c'est une opération militaire ciblée, en tous les cas c'est ce que mon père, ancien FFI, m'a expliqué, sur les représentants d'un pouvoir ennemi, de préférence sur ses dirigeants, et comme me le disait mon père, nous visions, quand nous avions affaire à un attentat, des officiers, pas des simples soldats. Donc il n'y a rien à voir. Comment peut-on faire cette confusion scandaleuse entre un terroriste et un résistant? Un État peut terroriser sa population. Ça s'est vu, lisez par exemple la fête du bouc de Vargas Llosa, excellent auteur libéral. Vargas Llosa montre, c'est pour toi Fatia, Fatia montre comment un État peut effectivement terroriser sa population, c'est-à-dire prendre des gens au hasard, violer les filles d'un dirigeant pour montrer que personne n'est à l'abri. Un État ne saurait faire de la résistance, par définition. Les mots doivent garder leur sens, on l'a dit un peu ce matin, mais un tas de petits malins ont intérêt à brouiller les cartes, à faire mentir les mots et à truquer le vocabulaire. La phrase de Camus est trop célèbre à présent pour que je vous la récite, vous la connaissez tous par cœur, vous l'avez en mémoire. Je vous en citer une autre qui dit la même chose, mais je trouve de manière encore plus précise. Elle est tirée de « Utopie et désenchantement » de Claudio Magris. Beaucoup de malhonnêtetés naissent quand on massacre la langue, qu'on met le sujet à l'accusatif et le complément d'objet au nominatif, brouillant ainsi les cartes, intervertissant les rôles des victimes et des bourreaux, abolissant les distinctions et les hiérarchies en de crapuleuses orgies de concepts et de sentiments qui altèrent la vérité. Je pense que nous avons affaire dans les médias à des gens qui, sciemment, minent le sens des mots pour empêcher de dire la vérité, parce que cette vérité, ils ne veulent pas qu'elle soit entendue. Le même écrivain belge, je le disais, s'est fendu d'une tribune à l'époque dans Le Monde pour dénoncer la rhétorique guerrière employée par les dirigeants français. Comme quoi, vous voyez, l'idée de rhétorique, de stylistique, de sémantique sont des idées fortes entre les mains des gens qui nous ont fait la guerre et de ceux qui les défendent. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui rappeler l'excellente sentence de Raymond Aron qui écrivait dans l'Opium des intellectuels, encore un auteur libéral, hein, Fatia. La qualification morale ou juridique d'un acte n'est pas modifiée par le cours des événements ultérieurs. Magnifique phrase, je la répète parce qu'elle n'est pas simple. La qualification morale ou juridique d'un acte n'est pas modifiée par le cours des événements ultérieurs. Autrement dit, un crime terroriste est un crime terroriste. Et l'avenir ne dira pas que c'était un acte de résistance. Un acte de lâcheté est un acte de lâcheté, et personne dans l'avenir ne viendra dire que c'est un acte de courage. Même si c'est vrai, l'histoire n'a jamais dit son dernier mot. L'histoire n'en fera pas un héros, ça reste un terroriste. Mais la fascination de certains intellectuels pour la violence, là aussi fort bien analysée par Raymond Aron, cette fascination, ce qu'il appelait l'héroïsme de la violence ou le romantisme de la violence, pensez à Vergès, ce genre de personnage, à certains écrivains fascistes qui sont hantés par l'idée que quand on déploie la violence et que forcément on est du côté d'une cause assez juste. Pour certains intellectuels qui héroïsent la violence, c'est forcément le cas. Un homme qui brandit une kalachnikov, quelque part, l'histoire lui donnera raison, puisque la violence est accoucheuse de l'histoire. Mais ce qui m'a frappé, moi, ce matin d'avril, fut de me sentir si seul face à cette bêtise doublée d'une abjection. Alors que nos médiateurs se targuent de guetter et de signaler les dérapages, dans certains cas, face à certains égarements, eh bien, ils oublient de s'indigner. Traiter de résistants éventuels des terroristes leur semble faire figure d'élégant paradoxe. Mais si une telle confusion volontaire provenait d'un invité d'extrême droite, qu'en dirait le journaliste ? Je crois que la réponse est aisée. Si on disait les auteurs de l'attentat de la gare de Bologne, dont on sait maintenant que c'était l'extrême droite, si on leur disait « Demain, peut-être, ces gens seront qualifiés de résistants », que diraient-ils ? Alors pourquoi cette étrange passivité, cette étrange complaisance à l'égard du terrorisme quand il vient de l'islamisme ? Il est clair, en effet, qu'aussitôt que le spectre de l'islam rôde autour d'un sujet, le parti des médias, pour reprendre cette expression à Marcel Gauchet, perd ses repères habituels. Il ne sait plus où il en est. Sa boussole est déréglée. Dans le même registre, celui d'une police orwellienne du langage, un collègue, alors ça c'est tout récent, qui lit un billet chaque matin sur une radio publique, prend soin, comme nous le faisons tous dans l'exercice de nos métiers, de rédiger les questions à l'avance pour la personne qui présente l'émission. Il m'explique, la semaine dernière, il m'explique que l'une des questions comportait le mot « islamiste ». Je précise que c'est un garçon qui n'est pas du tout islamophobe, il est plutôt sympathisant. Il a été marié avec une musulmane et m'a-t-il confié, il a pensé à se convertir, pour vous dire le personnage. Il avait mis le mot « islamiste » dans sa question. La personne chargée de présenter l'émission lui dit « Je suis désolé, c'est un mot que je ne prononce jamais ». Elle lui confie en micro. C'est un mot que je ne prononce jamais. Elle le raye sur le papier et le remplace par intégriste. Pendant les infos, elle lui explique que c'est un mot connoté. C'est pour ça que je ne l'emploie jamais. Mais intégriste, c'est noyer le poisson, bien entendu. Il y a des protestants et des bouddhistes intégristes. Jusqu'à preuve du contraire, ils font rarement l'usage des kalachnikovs et des bombes. Ils ne mitraillent pas les consommateurs des cafés. Donc on peut pas tout mélanger. On peut pas dire intégriste pour ne pas dire islamiste, djihadiste. Censure, autocensure, ce ne sont pas des rumeurs, c'est mon vécu quotidien. Autocensure, on la voit à l'œuvre lorsque le parti des médias cherche à dissimuler la nature des crimes commis. Combien d'attentats ont été présentés par les médias bien-pensants pendant si longtemps cachés au public comme des actes d'un déséquilibré ? Combien, souvenez-vous de tous ces camions qui se précipitaient sur des marchés de Noël conduit par des déséquilibrés. Pourquoi si longtemps il a fallu attendre avant de savoir, et on ne le sait pas toujours maintenant, combien d'attentats ont été commis en Turquie par des déséquilibrés ? Étrange pétage de plomb survenu sur les marchés de Noël. De la même manière, l'AFP nous présente les attentats commis en Israël, souvenez-vous, toujours de la même façon. Un Palestinien a été tué. Vous lisez l'article ? Il était armé d'un couteau, il venait de tuer deux personnes. Certes, il a été abattu, mais le titre, c'est toujours « Un Palestinien a été abattu ». Quand une rédaction est informée de manière aussi tendancieuse dans une radio, dans un journal, dans une télévision, comment s'étonner que ces journalistes refusent toute comparaison entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici ? Le nombre de fois où je me suis engueulé avec des collègues en leur disant « Mais regarde, en Israël, c'est la même chose, des voitures folles qui foncent sur des stations de tramway et d'autobus pour y tuer les gens qui attendent. C'est la même chose que nous avons subi, nous, ici. C'est les mêmes. » Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, si. C'est toujours Allahu Akbar, C'est les mêmes méthodes. C'est tuer des juifs, tuer des homosexuels, tuer des femmes, tuer des innocents qui se promènent par là, qui passent par là. Moi, ce parallèle, je l'ose. Lorsque l'existence d'un attentat ne peut plus être niée, alors ce sont ces motivations qui font l'objet d'un déni. Pensez à l'attentat de juin dernier à Atlanta, aux États-Unis. Aussitôt, on a détourné l'attention. Un crime homophobe, un, et deux, c'est le problème de la libre circulation des armes aux États-Unis. Circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, tout de même, ce type, Omar Mateen, là je peux citer son nom, hein. Je pense que ses motivations n'étaient, on ne peut pas être plus clair que ses motivations. Et comme d'habitude, les premières informations sont démenties par la suite, ce qui évidemment amène à jeter le questionnement sur les informations que nous recevons. Dans un premier temps, souvenez-vous, on nous dit, on donne la parole à son père qui dit « Mon fils avait une haine pour les homosexuels, mais ça n'a rien à voir avec la religion. » Ah bon, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on précipite les homosexuels du haut des toits dans les territoires tenus par Daesh ? Ça n'a rien à voir avec certaines sourates qui disent que, le peuple de Lot doit être supprimé ? Bien sûr que ça a à voir. On ne connaît pas les motivations. Mais si, les motivations, elles sont claires, elles sont islamistes. Si Omar Mateen a tué les clients du Pulse, c'est parce que les homosexuels sont considérés par des monstres, par les gens comme lui, qui professent son idéologie. Après chaque attentat commis aux États-Unis, les journalistes mettent en cause la circulation des armes à feu, comme si c'était ça le problème. Et à Bruxelles, c'était la circulation des armes à feu qui est en cause. Et en Angleterre, où la circulation des armes à feu est beaucoup plus contrôlée encore qu'en France, ça n'a pas empêché certains de se faire tuer à coups de hache en pleine rue, comme un soldat anglais l'année dernière. Mais le problème, c'est que de cette manière, en focalisant sur la question de la possession des armes à feu, on détourne l'attention du problème. On essaie de ne pas nommer l'idéologie qui est derrière, qui inspire l'acte des terroristes. Quand Mohamed Merah a tué à bout portant des enfants d'une balle dans la tête, c'est parce que ses donneurs d'ordre lui ont dit que tous les juifs devaient être tués par tous les moyens, avec des voitures, avec des couteaux, avec tout ce qu'on a sous la main. Et là encore, désinformation, dévoilement progressif de la vérité. Au début, dans un premier temps, c'est l'extrême droite, souvenez-vous. Je suis tombé dans le panneau moi-même. Le lendemain, à France Culture, j'ai fait un truc contre l'extrême droite en me disant ça peut être qu'un facho pour faire un truc pareil. Le lendemain, on apprend que non, c'est pas les usual suspects, c'est d'autres. Alors, la théorie du dément qui a pété les plombs ne tenant plus, c'est un loup solitaire. Après, on apprend que le mec a subi une formation en Syrie, au Yémen, toujours les mêmes choses. Pourquoi ce dévoilement progressif de la vérité ? Qu'est-ce qui les gêne, les confrères, exactement ? Jacques Julliard a dit « Il y a un problème de l'islamo-gauchisme. Pourquoi et comment une poignée d'intellectuels d'extrême-gauche, peu nombreux mais très influents dans les médias, ont-ils imposé une véritable sanctuarisation de l'islam dans l'espace politique français ? Pourquoi cette étrange intimidation parée des plumes de la morale ?» Je dirais qu'il y a des bons sentiments chez certains d'entre eux. Il y a la peur des représailles sur la population musulmane. Beaucoup de mes confrères, je vois très bien quand le journal commence, guettent les signes annonciateurs d'un immense pogrom qui se dirigerait contre nos confrères musulmans en France. Est-ce que c'est jamais arrivé ? Est-ce que les gens sont assez bêtes pour identifier le terroriste qui vient de tirer au Bataclan avec leurs voisins musulmans qui fait l'Aïd et qui a jamais embêté personne. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Mais je comprends cette motivation chez les confrères parce qu'elle est réelle, elle est sérieuse. Ils ont vraiment peur que l'extrême droite exploite un jour un attentat pour déclencher une persécution massive des musulmans de France ou quelque part en Europe. D'où le pas d'amalgame. Mais cet amalgame, personne ne le fait. Eux, parfois, oui, comme je viens d'essayer de le prouver. Après chaque attentat, on a entendu ainsi les journalistes guetter avec anxiété des ratonnades anti-arabes, dénoncer par avance des pogroms racistes dont seraient menacées les populations de l'immigration, mais de tels événements ne se produisent jamais, et par bonheur, je pense qu'ils ne se produiront pas parce que les gens ne sont pas si stupides. Mais les gens ne sont pas si stupides parce qu'ils ont compris précisément que le but des attentats terroristes commandités par Daesh ou par Al-Qaïda est précisément d'essayer de fomenter la guerre civile parmi nous, d'essayer d'isoler les populations musulmanes de manière à ce qu'elles deviennent victimes, effectivement, de violence ou de ségrégation. Donc évidemment, plus nous montrons à nos compatriotes musulmans que nous avons parfaitement compris qu'ils sont plus désignés que nous comme victimes éventuelles des terroristes, parce que les terroristes islamistes détestent bien davantage les mauvais musulmans, c'est-à-dire 99% d'entre eux, que nous autres, les kafirs, qui n'ont pas très important, les koufars.
Oui, oui, c'est vrai.
Alors, autre explication, l'explication par la crainte des représailles, encore une fois, je la comprends et je la comprends bien. Il y en a une autre qui est, hélas, que je comprends beaucoup moins bien. C'est l'explication islamo-gauchiste, on est au cœur du sujet, selon laquelle les immigrés seraient le prolétariat de substitution de nos marxistes défroqués. Ils l'ont élu pour provoquer leur révolution. La majorité de ceux-ci étant musulmans, eh bien, défendre l'islam contre toute critique est devenu un devoir moral et politique pour certains d'entre eux. C'est ça, les islamo-gauchistes. Dans une version radicale, cela donne l'étrange exaltation d'un Daniel Schneiderman, j'ai pas le citer, écrivant sur son site Arrêt sur image, le 18 janvier dernier de cette année-là, un petit texte, je vais vous lire parce qu'il est « À force qu'on l'attende, qu'on la prédise, qu'on l'espère, qu'on la redoute, l'insurrection, à force qu'on n'en finisse pas de se demander par où elle apparaîtra et si elle était là, il écrit comme un cochon, si nous étions déjà en pleine insurrection et si Mera, les Kouachi, les kamikazes du Bataclan et des terrasses jusqu'aux agresseurs sexuels de Cologne étaient les acteurs de ce qu'il faut bien appeler une insurrection. Il fallait entendre Laganerie se risquer marchant sur des œufs à une analyse inédite des terrasses de centre-ville comme un des lieux les plus intimidants qui soient pour les jeunes des minorités ethniques. Un espace où on n'ose pas s'asseoir, où on n'est pas bien accueilli, où on n'est pas bien servi, où c'est cher d'être servi. C'est un des lieux les plus traumatisants. Au fond, vous pouvez vous dire qu'ils ont plaqué des mots djihadistes sur une violence sociale qu'ils ont ressentie quand ils avaient 16 ans. Il faut convoquer le souvenir des émeutes de banlieue de 2005. Il faut qu'on évacue l'intimidation inévitable. Mais enfin, vous êtes en train d'excuser les terroristes. Et ce mot de terrorisme apparaît alors dans toute son inadéquation. Et ce mot de terroriste apparaît alors dans toute son inadéquation. Alors oui, apparaît cette désignation alternative, une insurrection qui certes ne serait pas celle dont on guettait ici les signes. Donc, vous voyez, aux yeux de certains crétins, les attentats terroristes sont l'avant-garde d'une révolution prolétarienne. On en est là. Il faut boire le café. La version qui est à la faveur des médias et la plus modérée, c'est le sociologisme banal. Les vraies causes sont la misère sociale et culturelle, le rejet dont les auteurs de crimes ont été l'objet, le racisme bien sûr. Bref, les coupables sont quelque part des victimes. D'où la bagarre sémantico-conceptuelle entre Valls et une bande de sociologues sur les mots de comprendre et d'excuser, mise en scène par Libé et par Le Monde, avec des tribunes de sociologues rappelant sèchement le Premier ministre à l'ordre, je pense en particulier à Bernard Lahire. Mais celui qui a jeté, je trouve, le masque, c'est Laganerie, qu'on citait à l'instant. Excusez, a-t-il dit, à propos des attentats terroristes, excusez, c'est un beau programme de gauche.
Merci Brice, je pense que nous reviendrons sur cette dimension qu'il fallait absolument évoquer, sur cette vérité que nous sert quotidiennement une certaine presse et qui contribue à faire ou à défaire l'opinion. Ce matin, le président de la LICRA nous appelait à l'optimisme, à la mobilisation et au combat pour les mots, et se réapproprier le sens des mots. Il faut aussi que nous ayons les moyens de la communication et les outils des médias. Merci pour ces exemples concrets.